bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, ravi de vous retrouver, on espère que vous avez passé un bon week-end. Voici Leïla Kadour-Bonnavi, Daniel Morin, Tom Villa, Jérémy Crédville, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité Michel Verdier.
Et bonjour
Michel, bienvenue, elle est au Théâtre des Variétés, ce beau théâtre chargé de la présence de Jean-Paul Belmondo quand même.
Il a marqué vraiment le lieu. Je suis dans sa loge, alors ça me fait toujours un peu quelque chose, oui, j'ai l'impression de faire alors deux places ce soir, l'esquinade et tout ça, ça me rappelle des films.
Mise en scène par votre fidèle Marie-Pascale Osterit, vous signez donc vivement demain.
Et tout le monde n'y arrive pas.
Oui, mais tu l'as vu vraiment. Non, bravo Nagui,
c'est pas Osterit. Bien
dit. Si, c'est ça, bravo. Il y a d'autres animateurs.
Tu m'attendais au virage.
Non, qui disent Osterit, etc. Oui.
Mais tu vois la différence, c'est que ce sont d'autres animateurs.
Ouais,
c'est on embrasse Thierry Ardisson.
C'est clair.
Bah, on embrasse ton orthophoniste, surtout. Beaucoup de progrès.
Michel, donc, jusqu'au 20 avril, il faut se dépêcher parce que c'est complet du sol au plafond. Ouais. Non, mais c'est un truc de dingue. On n'est pas allé le même soir, Leïla et moi, mais c'était blindé. Alors, moi, j'ai cru. Après, j'ai demandé, je dis, allez là, alors ? Elle me dit, non, c'était plein.
Ouais, blindé,
ça cartonne. C'est gentil de venir faire de la promo, même quand c'est plein.
Ouais. Mais parce que je suis toujours fière de parler de mon travail, et puis, puis je suis fière d'être là, et puis je suis contente de vous voir, et puis, la vie est belle, et puis on est lundi.
Très bien.
Et puis c'est bien, quoi.
Et voilà. Puis je joue pas ce soir, donc restons plus pour se lever tôt le matin.
Bien joué, Michel.
Allez, on va poser des questions sur Michel Bernier, et puis ensuite nous parlerons de ce spectacle Vive demain. Quelle est la recette miracle de Michel Bernier pour calmer ses deux petits-enfants, Zoé et Roméo, que nous embrassons?
Elle chante en italien?
Comme
dans le spectacle?
Elle chante, mais pas en italien.
Bon, allez, en espagnol.
Elle chante.
En grec.
Oui, pirouette cacahuète, il paraît.
Oui.
En italien?
Non. Pirouette cacahuète, c'est moins.
Ils ont 19 ans.
C'est ça, c'est leur permis de conduire, je leur ai chanté ça et ils l'ont eu. C'est la chanson qui leur plaît.
Ils ne veulent écouter que ça.
Oui,
dit
toute la famille leur chante ça tout le temps et ils sont heureux. Voilà.
Et ils vont bien?
Et ils vont bien.
Et ils sont présents dans le. Non, c'est plutôt Enzo et Charlotte qui sont présents dans le spectacle.
Et ils sont tout le monde est là. Toujours dans tous les spectacles, il y a une partie de ma famille, mes enfants, là maintenant mes petits enfants, mon ex-mari, mon ex-belle-mère, là mon ex-beau-père. voilà, mes et copines.
Il y a même le futur amant peut-être quelque part.
Bah oui, bien sûr. Bah oui.
De toute façon, il est quelque part.
Il est. Ah, ça.
Forcément.
Alors, je sais pas où il est planqué, celui-là.
Je sais pas où il est quelque part.
Voilà, là. Je sais pas s'ils ont s'appeler d'attache à Campouche, mais en masculin. Parce
dans
que,
une cave.
Pourquoi, justement, l'une de ses plus belles histoires d'amour n'a jamais pu se concrétiser?
Parce qu'elle a jamais dit.
Ou il est mort.
Ouais, pourquoi elle l'a pas dit?
Bah parce qu'il était, elle ne croyait pas.
Parce que personne n'est décédé avant, c'est
non.
C'est
parce quelqu'un de la famille.
Plus vieux.
Il était marié.
Oui, plus vieux.
Oui.
Vraiment plus vieux.
Non, je vais accepter le plus vieux. C'était votre pion.
Oh là, mais disons, vous êtes allé chercher ça.
Non, mais il est là.
Écoutez.
Mais dans le public, il faut le reconnaître.
Non, c'est ici que vous nous aviez raconté ça.
Oui, c'est vrai. J'étais très amoureuse. J'étais en pension. Je devais avoir, 15-16 ans. Et j'étais très amoureuse du pion. Et le pion était très amoureux de moi. Oh. Mais nous avons eu une histoire extrêmement chaste, qui était une histoire totalement d'amour.
Il y a un livre qui est sorti, l'affaire Eric Baird, là-dessus.
Oui. Il m'écrivait des lettres magnifiques. Et voilà, c'est ça. Ça a duré le temps que il en est marre de pas pouvoir coucher avec moi.
Il avait 15 ans de plus, quoi, c'est ça?
Peut-être pas 15, mais bon, une bonne dizaine quand même. Voilà.
C'était juste pas imaginable.
Quel
est le plus grand regret artistique de Michel Bernier?
Le chant, encore?
Non.
De ne pas avoir fait quelque chose avec un artiste en particulier.
La peinture, la sculpture,
une non-participation.
Non, un truc qu'elle n'a pas fait et qu'elle regrette de ne pas avoir fait.
Un instrument? Jouer d'un instrument de musique?
Ouais, exactement. C'est même carrément arrêter un instrument de musique à 12 ans.
Oui, c'est dommage, hein. J'ai commencé le piano, j'avais 4 ans. J'avais un prof qui m'apprenait, en plus, il mettait des petites gommettes de couleurs sur sur le clavier. Et, j'aimais bien ça.
Après, Monsieur Bon, tant pis.
Voilà.
Il est toujours couleur.
Charlie Oleg, on l'embrasse.
Formidable. Et puis après, j'ai eu une autre prof avec laquelle je m'entendais bien. Et puis 12 ans, comme mes parents voulaient absolument que j'aie une vie de petite fille future bourgeoise, donc je faisais...
C'est paradoxal pour Choron quand même.
Ouais, mais lui, alors pour lui, la bille faisait le moine et il fallait que j'ai l'air de sortir de la cuisse de Jupiter. Donc je devais tout savoir faire, du cheval, du tennis, du ski, de machin. Genre, j'avais
Martine,
des, voilà, c'est ça. J'avais des emplois du temps de ministre et je pense que le piano, je suis tombée à un moment sur une prof que avec laquelle je n'avais pas d'affinité et donc j'ai lâché et ce sera toujours le regret. Évidemment, tout le monde me dit, mais tu peux y retourner, mais j'ai l'impression qu'à un moment...
Mais ça se voit que vous aimez le chant déjà, le spectacle, le musical, parce que c'est un énorme clin d'œil à Jacqueline Maillan, en tout cas pour l'ouverture, les plumes. Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique, comme vous le dites, pour faire des courses. Mais
c'est justement la magie du spectacle, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Et là, les plumes, bon, c'était un petit fantasme.
Cher public adoré, je chante cette chanson d'entrée. Elle fut spécialement faite pour permettre d'admirer ma coiffure, ma toilette, mes bijoux et mes souliers. Je vous vois en train d'en discuter.
On est complètement dans ce côté musical. Et après, c'est assez fort d'ailleurs, vous, comme une sorte de mise en abîme, quoi. Vous vous observez en train de le faire et vous partez sur la vanne.
C'était mieux avant. Le premier qui me dit que c'était mieux avant.
C'est ça. On va y revenir. Justement, tiens. Peut-être vendu la mèche un peu trop tôt en passant cette chanson. Michel Bernier a réalisé un rêve, pouvoir rencontrer
Jacqueline Maillan.
Non. Ah. Mais une star.
Richard Vaillant.
Non.
Une star.
Céline Renaud.
Ouais. Alors c'est Céline Renaud qui lui a présenté cette star.
Johnny.
Non.
Dean Martin.
Star américaine.
Elvis.
Sinat.
Non.
Qu'est-ce qu'on aurait. Il y a longtemps.
Ah, c'est vrai qu'Elvis avait chanté dans la loge de Lynn Renault.
Oui, au Casino de Paris.
Ouais, la seule fois où il est chanté en Europe, c'était dans la loge de Lynn Renault.
Mais
ils n'arrivaient
pas à le faire sortir, même.
Il y a longtemps.
Il y a. J'ai pas l'année.
Georges international.
International.
Américaine.
Georges quelque chose. Américaine.
Polonka.
Américaine. Une femme.
Femme.
Paulette quelque chose.
Paulette. Non, Patina quelque chose. Bah, celle-là aussi, j'aimerais bien la voir.
Nina Simone.
Exactement.
Liza
Minnelli.
On dit Liza. Liza Minnelli, grâce à Lynn Renault, vous étiez star justement de ce musical façon Broadway.
Je pense que c'est la femme qui m'a donné envie de faire ce métier encore plus que tout. Je sais pas, j'avais comme une relation avec elle à travers tout ce qu'elle faisait, qui était comme si je pouvais être son amie. J'avais tout le temps envie de la voir. Et à chaque fois, je voyais ses films ou ses spectacles. Ouais, je pleure. Je pleure.
De quoi?
Ça me fait pleurer d'émotion de la voir. Voilà. Et la première fois que j'ai emmené Charlotte, parce que ma fille, j'expliquais toujours, ah, Liza, des moments, tu me saoules. Mmh. Et puis le jour où je l'ai emmenée avec moi, elle a pleuré avec moi, elle m'a dit, mais j'ai compris. Mmh. Voilà.
Et quand vous l'avez rencontrée, vous avez pleuré dans ses bras aussi, ou c'est...
Ah ben non, j'étais tétanisée, terrorisée, et je la regarde et je lui dis, oh, I'm so happy, you don't know how much I'm
voilà,
proud of you, etc.
Et
je me regarde en disant, elle s'en foutait un peu évidemment, mais c'était...
Non, vous exagérez. Non, parce que j'ai eu la chance aussi de la rencontrer.
Elle est venue nous en parler ici. Elle était très touchée.
Elle est pas du tout, comment dirais-je,
blasée.
À l'américaine, oui, c'est ça, blasée.
Non, elle a été charmante, hein, mais je réalisais un rêve, j'étais sourde, de muette, enfin c'était très bizarre de la rencontrer.
Et qu'elle a des billes,
elle a des billes incroyables. Et puis moi j'ai vu un Olympia où quand même c'est vrai qu'en plus ça nous a inspiré quelque part dans ce spectacle là aujourd'hui, c'est que moi je l'ai vue avec elle enlève ses talons, elle dit oh non à mon âge ça y est c'est fini, je peux plus faire ça, donc elle enlève ses chaussures, elle dit oh je suis quand même mieux par terre et pieds nus, après à la fin elle enlève
cette
espèce de perruque. Non mais c'est vrai, il y avait quelque chose de tellement émouvant dans le fait de dire je ne serai plus jamais Liza. Et aujourd'hui quand je viens chanter comme je peux et je suis contente de vous voir.
Et quoi. Elle a aussi beaucoup d'humour.
Mais c'est ça, et j'ai trouvé ça vraiment tellement merveilleux quoi. Ouais.
Allez, dernière question concernant Michel Bernier, enfin en tout cas ses goûts, et vous interrogeant sur le genre de spectacle auquel elle est vraiment allergique. Elle...
Comédie musicale.
Non. Mais
le drame.
Les marionnettes.
Non.
Les claquettes.
La danse.
Elle déteste. C'est étonnant.
Les chorales. L'opéra.
Exactement. Ah. C'est étonnant parce que vous parliez d'émotion et de spectacle. S'il y a bien aussi un moment où on peut être ému, c'est l'opéra.
Je déteste pas, mais j'ai pas été.
Vous dites que j'ai essayé mille fois d'écouter des
airs
d'opéra.
Ouais, j'ai du mal. D'abord, je trouve ça long.
Bah, Étienne, les notes.
Hein. Ouais, avec une note, tu fais un quart d'heure.
Ah, oui, non, mais je crois que c'est pas de ma culture. Moi, ma grand-mère maternelle, elle adorait l'opérette. Alors, je suis allée voir 1550 opérettes avec elle. Mais l'opéra à la maison, c'est pas trop le truc, quoi. Et puis, je raconte souvent cette anecdote parce que ça me fait marrer, mais quand j'étais petite, il y avait très très peu de chaînes à la télé. Je pense même qu'il n'y en avait qu'une et puis après il y en a eu deux. Mais donc, au moins, il y avait deux chaînes, il y avait les émissions de variété de Guy Lux. Et quand mon père rentrait, qu'il me voyait regarder ça, ça le rendait fou. Donc, il me disait, pourquoi tu regardes ces conneries? Alors bon, et pour essayer. Puis un soir, il rentre et il dit, pourquoi tu regardes ceci? Ben parce que sur l'autre chaîne, il y a un concert. Et ce qui était vrai d'ailleurs. Et il m'a dit, ah bon, d'accord. Genre, mon père n'aimait pas les concerts. Et donc, j'ai compris que c'était un bon plan pour que je puisse regarder toutes les émissions que je voulais regarder. Donc à chaque fois qu'il rentrait, qu'il me disait, mais c'est quoi ces trucs? J'ai dit, mais parce qu'il y a un concert de l'autre côté. Donc, il me dit, bon bah alors d'accord. En fait, j'ai jamais eu autant de concerts à la télévision qu'à cette époque-là. Mais juste pour vous dire quel papa j'avais, c'est que mais je sais pas, peut-être un an ou deux avant sa disparition, il m'a dit, mais j'ai toujours su qu'il n'y avait pas de concert, mais t'étais tellement contente de regarder François que je ne pouvais pas t'empêcher.
Au Théâtre des Variétés, donc Michel Bernier avec ce spectacle jusqu'au 20 avril. Un spectacle où c'est vrai que ça s'appelle Vive Demain. Le point de départ, c'est de vous ne voulez pas entendre cette phrase, c'était mieux avant. D'abord, est-ce que c'est vrai ou c'est un effet d'humour?
C'était mieux avant, c'est ce qu'on entend tout le temps. Donc, bien sûr, pour plein de gens, c'était mieux avant. On se dit, ouais, ça, c'était mieux avant. Oh, c'est dommage, ça n'existe plus, etc. Parce que c'est normal, notre passé nous manque. Je veux dire, pour certaines choses. D'abord, parce qu'on ne voit plus les gens qu'on a aimés. On a changé de vie, changé d'homme, changé de femme, changé de plein de trucs. C'est assez troublant, d'ailleurs. C'est pas pour ça qu'on est plus heureux. Mais c'est surtout l'impression que c'était mieux avant, c'était un frein à l'avenir, un frein à avoir envie de regarder le futur et un frein à la jeunesse. C'est-à-dire que moi j'y crois beaucoup à cette jeunesse et je me dis qu'à chaque fois qu'on lui dit que c'était mieux avant, on a l'impression d'être des vieux machins.
Alors c'est comme quoi, nier le progrès?
Oui, c'est nier le progrès, nier qu'il faut avancer, que on voit bien que le monde, il est un peu là, il est un peu déstabilisé par tout ce qui se passe.
Bah, disons-le, on va tous crever.
De toute façon, c'est clair.
D'ici peu de temps.
Ça, de toute façon, on n'aura pas le choix.
D'ici peu de temps.
Non, le problème, c'est la planète qui peut.
Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on a écrit le spectacle avec Marie-Pascal, mais on a fait des heures et des heures de recherche, internet, machin. On a regardé, par exemple, le film Demain.
De
Mélanie Laurent, qui est un souffle d'espoir, parce qu'on se rend compte à quel point il y a un nombre de gens incalculables qui, eux, ont envie d'avenir et qui, eux, cherchent, font des choses pour que ça aille mieux, pour que la planète résiste.
Si vous aimez ce genre de doc, il faut que vous regardiez sur Netflix celui de Leonardo DiCaprio qui s'appelle je crois que c'est Avant le déluge, un truc comme ça. Je crois, il me semble que le titre c'est Avant le déluge, on va vérifier.
Non.
qui est beaucoup. Qui se veut aussi optimiste positif, mais c'est vrai que le constat est quand même triste.
Et c'est vrai que par rapport à ça aussi, c'est moi j'ai la sensation qu'on se sent un peu coupable de tout ce qui est arrivé, parce que comme on dit dans le spectacle. Moi, les problèmes d'écologie, j'en ai entendu parler chez moi, avec Rezer,
depuis des années.
On parlait d'un mec qui se présentait tout le temps aux élections, qui s'appelait
René Dumont, qui faisait sa campagne à vélo.
Qui déjà, à ce moment-là, lançait des warnings. Plein de gens ont lancé des warnings.
On le prenait pour un fou à l'époque.
Mais on les prenait pour des fous. Ouais. Et puis surtout, on sortait, effectivement, enfin, on arrivait dans une espèce de trente glorieuse comme ça, où on avait besoin d'être un peu égoïste, tout nous arrivait, le progrès. Tout d'un coup, on se disait, bah oui, si je peux avoir deux voitures, trois voitures, et puis une moto, et puis si je pouvais aussi avoir la clim chez moi, et si je pouvais avoir trois chauffages et 45 machins.
Alors justement,
c'est un monde de consommation exagéré.
On en arrive à la consommation, parce que c'est une autre partie du spectacle. Tout le spectacle n'est pas sur le c'était mieux avant. Vous arrivez aussi aux inventions, à commencer par les talons. Vous vous dites, c'est un talon de 12 cm, ça peut être qu'un mec qui qui invente ça parce qu'une fille ne peut pas marcher sur 12 centimètres de talons.
On se dit que, mais c'est vrai qu'en remarquant, les choses ont un petit peu changé aujourd'hui. Il y a comme quelques femmes maintenant dans ces histoires de stylistes et de designers. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des hommes qui font ça et qu'on se dit, mais c'est pour nous emmerder, c'est pas possible.
Comment marcher sur des graviers?
Mais on se demande pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes à l'Élysée, mais c'est à cause des graviers. Ah oui, traverser toute la cour de l'Élysée dans 5 cm de gravier sur des talons aiguilles de 11 cm en restant digne et élégante devant une haie de photographes, eh ben ça a dû en freiner plus d'une. Mais on ne se rend pas compte de tout ça.
Et puis, il y a un discours, oui, justement, féministe, mais au bon sens du terme, parce que malheureusement, souvent, quand on dit féministe, on a l'impression que c'est un truc rébarbatif et agressif, mais je trouvais ça très positif. Vous parlez de ce fameux couple, monsieur et madame Dyson.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui a inventé l'aspirateur sans sac.
Non, c'est qu'on se dit qu'en fait, toutes les inventions, alors évidemment, on décline toutes les inventions qui ont été inventées par les hommes, dont ils ne se servent pas, mais nous les vendent et nous, on les achète. Mais, et puis, celles qui sont vraiment pratiques, ce sont celles qu'ils ont inventées pour se simplifier leur vie à eux. Et donc, on raconte un peu évidemment, l'histoire de monsieur Dyson et sa femme et comment il a inventé l'aspirateur sans sac. Et c'est en fait, c'était pour se faciliter sa vie à lui, oui. Puisque sa femme l'obligeait à passer aspirateur.
Voilà.
Et donc, il s'est dit, oh là là, mais aller acheter des sacs aspirateurs toutes les 5 minutes, donc il a inventé l'aspirateur sans sac.
Et ce ne sont que des détails comme ça du quotidien sont hyper bien sentis. Bah oui. Nous, on a pleuré de rire avec cette histoire de chaise tissée dans... Vous savez, les sièges qu'on a dans les cafés, oui. Qui sont tissés dans une sorte de matière un peu...
C'est du plastique,
mais qui fait imitation rotin, je ne sais pas.
Exactement. C'est
le rotin en plastique.
Et comment on y reste soit l'été, soit l'hiver, avec
les deux
collants, mais c'est un drame. C'est un drame.
Absolu.
Et on a pleuré de rire.
C'est-à-dire que ces chaises en osier ou tressées, qu'elles soient en plastique ou réellement en paille, soit l'hiver, elles déchirent les collants, soit l'été, elles marquent les cuisses.
Ah, mais ça, alors là, quand on est en short,
et on voit là dans le public, et toutes les femmes vont, oui.
Et on a le dessin du tressage tatoué sur le haut des cuisses.
On est gaufrés, ouais.
Donc moi, je me dis. Moi, je me dis que les mecs qui ont inventé ça, franchement, j'y pense à rien, quoi. Enfin, vraiment.
Non, déjà, ça peut être que des mecs qui inventent ça.
Mais je sais pas, je vois pas les femmes se dire.
Ça ferait vraiment marrer que ce soit une nana qui a inventé ça.
Et ce qui est drôle dans le spectacle, c'est que c'est assorti de petits silences avec projection sur l'écran du fond, justement de la matière de la chaise. Et donc, on fait un aller-retour entre vous, vous vous arrêtez, vous nous regardez de façon un peu genre, vous voyez, comment on souffre. Et on voit la chaise apparaître et on revient. Et c'est drôlissime, Michel Bernier, vraiment.
Merci. La mise en scène, vous avez toujours aimé mélanger les effets de lumière, de projection, mais là, c'est ça, il y a un vrai boulot d'avoir une véritable synchronisation avec des musiciens qui sont...
J'ai l'impression que vous avez bossé sur ce spectacle.
Non,
c'est ce qu'il est en train de dire.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est clairement travaillé, léché, ce spectacle, mais en même temps, c'est extrêmement fluide. C'est-à-dire, on ne vous sent pas victime de ces images, de ces projections. C'est plutôt elles, d'ailleurs, qui vous suivent dans vos improvisations.
Oui.
Ce qui vous permet, d'ailleurs, de prendre plus ou moins de temps ou de parler au public.
Bah, c'est une grande liberté, ça, parce que je me sens tout le temps... Je sais que je suis entourée. Alors moi, je n'ai pas besoin de me préoccuper de rien. Et le décor me suit,
c'est
quoi. Et puis c'est magnifique, c'est un travail. Donc c'est Marie-Pascale Ostéry qui a eu toutes ces idées-là, à travers aussi un décorateur qui s'appelait Pierre-François Limboche, qui est un grand décorateur d'images et tout ça. Il a beaucoup travaillé avec John Malkovich. Enfin bon, c'est un mec très pointu. Et c'est vrai que chaque chose est travaillée, pensée. Ça prend beaucoup de temps. Et que, en plus, j'ai l'impression que dans ce théâtre-là, c'est comme s'il y avait une vraie harmonie entre les écrans et le théâtre.
Très sincèrement, c'est un plus confortable et agréable. Ça, c'est votre respect du public, parce qu'on se dit, il y a des moyens. Appelons un chat, c'est que ça doit coûter cher, ces écrans. Le travail qui a été fait de préparation, d'iconographie, de recherche est là, et vous pourriez très bien aussi être sur un fond noir avec trois projecteurs et faire comme beaucoup d'artistes, un seul en scène, sans que ce soit spécialement un spectacle théâtralisé et mis en lumière comme ça.
Nous, on adore le spectacle. Quand on a fait le Démon de Midi, on l'a monté toutes les deux, donc on n'avait pas de sous, donc on est allé chercher un canapé Ikea et une table basse. Et c'est vrai qu'on se rendait compte au fur et à mesure que ça nous manquait, quelque chose nous manquait. Et puis, quand on a fait Et pas une ride, donc Marie-Pascale avait bossé en amont, avait rencontré Pierre-François et donc on a commencé à imaginer des histoires d'écran. Donc on s'était déjà servi de ça sur Et pas une ride, qui nous aidait beaucoup aussi à mettre des ambiances. Et puis là, on a rajouté, mais aussi le spectacle est différent. Sur Et pas une ride, je parlais vraiment, enfin c'était encore plus perso, parce que c'était mes 50 ans, machin, etc. Et là, je pense qu'il y a, il y a un vrai travail, parce qu'il y a des choses en plus, là.
Mais il y a une partie très perso aussi. Oui. Vous parlez de votre famille, vous parlez du fait d'être grand-mère.
Ouais.
Vous parlez de passer le cap, de passer le cap de la soixantaine. Non, mais vous l'assumez.
La femme invisible dans la société française, ça c'est hyper bon. Et on voit la réaction aussi dans le public, parce que c'est ça, c'est de voir, parce qu'il y a tous les âges dans la salle, mais de voir que les femmes opinent du chef quand, ça, quand vous évoquez ces sujets-là.
Cette transparence de la soixantaine qui est un peu bizarre d'ailleurs, parce que c'est comme si on était un peu en dehors du temps, on n'est pas foutu, on n'est plus jeune, mais on n'est pas vieille, donc on ne sait pas où se mettre. Si on est seul, ben, pour trouver le mec de sa vie, c'est compliqué, parce que bon, ceux-là, ils sont avec des plus jeunes. Donc, nous, il nous reste les vieux papis, mais les vieux papis, on n'en a pas spécialement envie non plus. Donc, on est un peu comme ça, quoi. Comme je dis, on est trop vieille pour les discothèques, trop jeune pour être dansant.
Oui,
trop vieille pour acheter un appartement à crédit, mais trop jeune pour vendre le sien en viager. Donc, on est là dans une espèce de no man's land.
Sale période.
En transparence.
La scène dans la discothèque, elle est extrêmement drôle.
Oui.
Extrêmement drôle.
On se demande si vous venez chercher votre fils en boîte, en gros.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a.
Le
buzz café.
On
se dit, quand on voit des jeunes, on se dit, oh ouais, c'est bien les jeunes, mais moi aussi je suis jeune, et moi aussi je peux parler avec eux. Mais oui, et puis en fait, on se rend compte que leurs endroits, leur façon d'être, leur façon de vivre, on est en dehors de ça. Donc,
comment ils font pour savoir, en allant dans un troquet, qu'ils vont retrouver tous leurs potes, alors que nous, on met 15 jours pour monter un dîner avec 4 amis.
C'est des dîners assis, avec le sempiternel, et on se coûte pas trop tard ce soir, parce que demain matin, on se lève. Et nous, on se retrouve à commencer à rétrécir notre vie, comme s'il fallait qu'on commence déjà à se dire, bon, allez, on va vers la fin, il faut en s'arrêter.
Non, mais c'est extrêmement drôle, c'est mis en scène, c'est un spectacle, et on est touché que vous ayez mis autant de travail pour nous faire plaisir pendant cette heure et demie, cette bonne heure et demie d'ailleurs.
Parce que ça fait une bonne heure 40.
Facile. On en a pour ces sous, en tout cas.
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu important aussi de dire, en plus, moi, je fais un spectacle seul tous les 10 ans, donc c'est vrai que de revenir sur scène et de pouvoir proposer des chansons, de la lumière, d'un décor, des choses qui font que la personne qui a payé, parce que moi je pense toujours au mec qui s'est dit ou à la nana qui s'est dit il faut que je trouve un babysitter, il faut que je fasse le trajet, je pense à tout ça, je me dis moi j'ai envie que quand on passe 1h40 ensemble, et que vous en ayez plein les yeux, plein les mirettes, qu'il se passe un truc, quoi.
Il y en a un arrêt que ce soit plus court,
c'est d'autres artistes, tu veux dire.
Bien sûr.
C'est au Théâtre des Variétés, Michel Bernier, et c'est déjà un succès, Tom Villa.
Oui, ça sent le succès, parce qu'il y a les scènes nous remonter le moral en disant que non, c'était pas mieux avant. Vive demain de Michel Bernier, c'est un plaidoyer pour l'avenir et contre le passéisme. En spécialiste, à 11h50, je crois qu'on devait avoir Éric Zemmour qui, du coup, a annulé. Non, mais c'est un sujet qui est clivant. Si tu dis que c'était pas mieux avant, tu passes pour l'optimiste tourné vers l'avenir. Et puis, si tu dis que c'était mieux avant, tu passes pour un vieux réac de droite, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de finir éditorialiste à BFM TV, tu vois. J'ai fait une chronique il y a un an, ici même, pour dire qu'effectivement, c'était pas mieux avant. Mais en y réfléchissant de plus près, j'ai quand même un doute. Si on est honnête 2 minutes, il y a quand même des trucs qui étaient mieux avant. Tu vois, avant Nagui sur le créneau de 11h midi et demi, c'était Frédéric Lopez. Donc, non, effectivement, tout n'était pas mieux avant. Mais quand même.
Un peu de respect.
Non, mais il y a quelques trucs. Déjà, truc d'actualité, les manifestations. Si. Avant, ça s'organisait sur un mardi, tout le monde y allait ensemble, 1 million dans la rue, on obtenait des trucs. Aujourd'hui, c'est quoi ce merdier? Ça manifeste que le samedi, on y croise toujours les mêmes personnes, il faut que ça finisse en bagarre. C'est plus un mouvement social, c'est une boîte de nuit de province. Et puis, il y avait des trucs avant qui étaient plus simples sur l'alcool ou la cigarette. Alors, je dis pas qu'il faut fumer ou boire. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux en même temps, vous pouvez alterner. Mais aujourd'hui, t'allumes une cigarette, tu crames le PIB de la Mauritanie. En 90, le paquet de clopes, ça coûtait 1,50€. Aujourd'hui, c'est 7 euros. Le cancer était quand même beaucoup plus abordable avant. Non, mais c'est vrai. Donc la cigarette, c'était mieux avant. La drogue, c'était mieux avant. Avant, on pouvait se droguer avec un tube de colle. Vous vous souvenez, en classe, aujourd'hui, on fait tellement attention aux enfants qui sont à deux doigts de retirer les compas parce que c'est dangereux, alors qu'on a tous envie de faire des rosaces dans la vie. Les films porno, c'était mieux avant. Avant, il y avait des histoires, il y avait des costumes. Aujourd'hui, on dirait que c'est mon père qui filme dans des chambres Ibis dégueulasses. C'est comme ça qu'on fait rêver les gosses? Je ne pense pas. Les restaurants, c'était mieux avant. Je me rappelle, avant, tu pouvais faire entrée plat dessert pour 50 francs. Aujourd'hui, 7,50 euros, c'est juste le prix d'un dessert. C'est plus des repas, c'est des goûters qu'on fait. Le cinéma, c'était mieux avant. Le cinéma, ça coûtait 20 francs à l'époque. Aujourd'hui, avec 3 euros, t'as même pas le pop-corn. Putain, je suis en train de devenir un gilet jaune. Je m'en rends pas compte, je suis en train de glisser. Les photos étaient mieux avant aussi. Avant, on prenait des photos que des trucs importants et on les imprimait en papier. Aujourd'hui, on prend tout et surtout pas grand-chose. Et puis, si tu perds ton téléphone, et si tu perds ton téléphone, comme une fois sur deux, t'as pas fait de sauvegarde, t'as plus rien. Donc aujourd'hui, dans les photos de famille, ça passe de 2015 à 2019 sans sas de transition. Non, après, il y a plein de belles choses dans l'avenir. Il y a écologiquement, voilà, on est peut-être un peu foutu, mais maintenant on le sait, voilà. Et puis, non, mais faut croire en l'avenir. Je sais que pour vous, Michel, le c'était mieux avant, c'est des conneries, mais demain, quand vous irez faire votre promo sur RMC, vous repenserez à notre émission aujourd'hui et vous direz, finalement, c'était peut-être mieux avant.
Oh, allez, bonne émission.
Sur France Inter.
Avec ce spectacle Vive Demain, justement, quelle est la part d'improvisation? Est-ce que vous appuyez sur soit l'actualité, soit ce qui a pu être fait?
Je suis pas une très grande improvisatrice. Moi, ça me fait peur, l'improvisation, parce que je trouve que quelquefois ça peut être un moment de grâce ou une catastrophe. Ouais. Tiens, ça me vient, puis personne ne rit. Tu dis mais oh là là. Pff, après tu rames derrière.
C'était mieux hier. Hein.
Ouais. Donc pas revenez de demain plutôt.
Pas de vanne sur l'actualité.
Non, très peu. Non, si ça m'arrive, c'est que vraiment, on est au bord de, on a écrit un sur un sujet et que voilà, tout d'un coup, ça peut se marier, mais généralement pas.
Est-ce que vous êtes aussi en froid avec Internet et l'informatique que sur scène ou c'est un sketch?
Je suis pas en froid, mais disons que je suis pas passionnée par ça. Voilà, je m'en sers très simplement et pas trop. Voilà. Je reste un peu. Ça me passionne pas parce que je suis pas. En fait, je crois que c'est pas ma tournure d'esprit. J'ai pas de logique. Je suis nulle en maths. C'est une catastrophe. Donc tout ce qui devient un peu compliqué me saoule vite. Donc je fais le minimum.
Là, on fait appel aux enfants.
Et là, j'appelle mon fils. Enzo. J'appelle Enzo. Je lui dis. Mais d'ailleurs hier, on était morts de rire parce que c'est pareil. Je lui dis Enzo, je comprends pas comment on fait ça. Et lui, il écroule de rire. Il dit c'est pas possible. On est encore dans le spectacle.
Non, mais j'imagine qu'ils vont tous, c'est vrai, je t'ai déjà expliqué.
T'ai déjà expliqué 20 fois, maman, on fait comme ça. Et je dis oui, bien sûr. Et évidemment, lui, il est en train de jouer au jeu avec son pote et je le saoule.
Vous lui demandez des raccourcis sur la PS aussi. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Voici Jérémy Crédville. Yes. Ça va, Jérémy?
Ouais, ça va. Allez, 3, 4.
Quoi?
Mais si vous voulez.
Bah, je sais pas.
Non, voilà, c'est maintenant qu'il faut chanter.
Ah, c'est quoi, c'est ton anniversaire?
Oh là là. Bon, attends, indice. Si je vous dis 3 février 87 et 5 février 2018, indice? Ok, bon, indice. On fête l'anniversaire d'un jeune humoriste qui monte tout ce qu'il peut monter et c'est un an d'insultes sur France Inter. Je suis.
Guillermo Guise.
Vous avez oublié. Putain, j'y crois pas. Ils ont oublié quoi?
Jérémy.
Nagui. Non, mais Nagui, j'étais là à ton déménagement. J'étais tout seul parce que tu devais aller bosser, il y avait que moi et Christophe Maé. Non, je te jure, le mec qui testait la sonnette, il disait ah ça fait ding ding ding, il m'a saoulé. Leïla,
oui.
Combien de fois je t'ai ramené bourré chez toi là, comme Gainsbourg.
Les
gens
quand
non, je te jure, on croisait des gens, ils disaient putain, il a maigri de par Dieu et je t'ai ramené chez toi dans l'espoir d'un petit coït amical. Non,
non.
Toi, tu disais je préfère qu'on reste amis, tu peux descendre la poubelle, Guillermo attend en bas.
Faut que je sois sobre.
Ouais, bah, tiens. Tom, je t'ai prêté ma sœur.
Oh,
oui, mais Daniel, ma mère, et vous avez échangé. Bon, bref, Michel.
C'est vrai, je m'embrasse d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on a fait?
Je peux pas vous en vouloir, Michel, puisqu'on se connaît depuis 30 minutes. Donc voilà, je vous en veux pas. Par contre, faites gaffe à ces petits vicieux, parce que aujourd'hui, ils parlent de vous, mais demain, ils vont inviter quelqu'un d'autre, et ils vont parler que de lui.
Mais non.
Oh là là. Ils sont comme ça dans la bande originale. C'est une bande originale de collègues, hein, puisque l'amitié n'est pas stipulée dans le contrat. Mais bon, je vous en veux pas, hein, c'est pas grave si vous avez oublié, c'est pas comme si Facebook vous l'avait rappelé. Moi, la première personne qui m'a souhaité mon anniversaire à 3h du matin, c'était le roi Merlin.
Ah, voilà.
J'ai 10% sur de l'enduit. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, ma chronique.
Ça, c'est bien.
Ouais. Alors, je vous cache pas que je suis un petit peu emmerdé. Parce
c'est vraiment ton anniversaire?
Surtout,
c'était mon anniversaire hier. Ouais.
J'ai fait des madeleines, j'ai fait des gâteaux.
J'ai vu, mais pour qui?
Pour toi.
Oui, c'est ça. Non, mais ma chronique. C'est pas grave. Par contre, je suis bien emmerdé parce que j'ai rien préparé. Je suis un peu venu les mains dans les poches. Moi, je pensais qu'on ferait un goûter. Mais bon, il y a des madeleines.
Il y a des madeleines de
Non, mais c'est quand même dingue. Attendez, c'est mon anniversaire. C'est moi qui vais vous faire don d'une chronique. Je vais vous faire un cadeau. Alors qu'à l'anniversaire, je sais pas, ça devrait être férié. Tu vois, on devrait pas travailler le jour de son anniversaire. Jésus, il a pas travaillé le jour de son anniversaire. Il a pas travaillé. D'ailleurs, Jésus, il est bien gentil, mais je crois qu'il a jamais travaillé de sa vie. Et puis Jésus, il a pas eu d'adolescence. Non, on l'a connu bébé, adulte, entre deux. Il a eu le temps de se faire 12 potes, 12 amis qui, eux, lui ont certainement envoyé un texto, au moins, le jour de son anniversaire. Mais bon, boulot, boulot, boulot. Alors, on a quoi cette semaine à part l'anniversaire de Jérémy Crenneville qui n'est pas susceptible du tout. Bah, par exemple, moi j'ai appris ce week-end que selon une étude, la banane reste le fruit le plus utilisé pour imiter le téléphone. Moi une info comme ça, ça me donne la pêche.
Hein.
Non mais attends, mais j'ai pas eu le temps de bosser mes vannes, j'ai fêté mon anniversaire toute la soirée, tout le week-end. D'ailleurs, je vous avais invité et je vous soupçonne de m'avoir donné des faux numéros puisqu'il y avait 4 personnes que je connaissais pas, il manquait que vous. Mais bon, c'est pas grave. Autre actu, breaking news. Dans les magasins boulangers, on ne vend pas de pain. Ouais, bah, ça va, et j'ai pas la capacité de tout rendre intéressant comme Marina Rollman, moi. Ouais, j'ai un chien, on s'en fout. Non, on adore. drame familial, tiens. Lors du baptême de Timon et Pumba, ils auraient mis un coup dans ma tata.
Qu'est-ce qui se passe?
Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Moi, je m'attendais à manger du gâteau.
Hakuna Matata.
Je m'attendais à manger du gâteau avec un petit chapeau pointu, et là, je me retrouve à deux doigts de faire une bec BD. Il y a le gars de la compta qui a débarqué en régime, mais c'est pas grave. Dernière info. Pré-nécrologie, William Lémergie a 72 ans. Oh. Voilà, joyeux anniversaire William, on ne le fête pas
le même
à la bande originale.
Ouais,
on a quelques années d'écart, mais voilà, on ne fête pas.
Je parle le jour, pas de l'année.
On ne fête pas les anniversaires, nous,
mais on
c'est
lui a souhaité,
question de principe. Bah tiens, ou plutôt d'absence de principe, mais je ne suis pas susceptible en même temps. De toute façon, ce qui est important pour les auditeurs, c'est d'avoir une émission de qualité, oui, avec des infos de qualité. Je vous donne donc rendez-vous demain à 9h avec Augustin Trapenard. En attendant, bisous. Et bon anniversaire à Gérard Poirier, comédien et metteur en scène canadien, qui fête aujourd'hui ses 89 ans. Bon anniversaire, Gérard.
Merci, bon anniversaire, Jérémy Crenneville.
Bon anniversaire. Oui.
La bande originale. Et on peut venir te souhaiter ton anniversaire aussi du jeudi au samedi à la Comédie des Boulevards, Jérémy Crenneville.
Qu'est-ce que c'est un éléphant?
La langue de belle-mère.
Ah, bon anniversaire. Mais tu sais tout faire avec ta bouche.
C'est blanc. C'est incroyable.
On y est, on ferme les yeux.
La bande originale. La bande originale du...
Spectacle. Il est pas formidable plus un.
En fait, c'est le générique de Vive les femmes dont vous savez dans votre spectacle.
Oui, parce que c'est le premier film que j'ai fait avec un vrai rôle. C'est un film de Claude Confortès d'après
la
bande dessinée de Réserve qui s'appelait Vive les femmes. Voilà.
Qui porte bien son titre. Oui. Beaucoup de musique, et puis alors vous chantez, vous faites même carrément une reprise.
Panique.
Okay.
Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux.
Parce qu'il faut pas vous appeler madame.
Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux.
Ça vous a énervé quand vous avez appris que le mademoiselle disparaissait? Ouais. Alors, en fait, il disparaît des formulaires administratifs. Mm. C'est ou monsieur ou madame, il n'y a plus de mademoiselle.
Oui, non, bah, je trouve ça un peu, comme je dis dans la chanson, ils ont autre chose à faire ou pas? Ou c'est vraiment, c'était une priorité de s'occuper de ce mot mademoiselle?
Ils prenaient comme une espèce de ségrégation, oui, le fait d'appeler, de marquer le non-mariage.
Oui, bah, donc on est vieille direct, quoi. Maintenant, on s'appelle madame ou rien.
Non, mais parce qu'il n'y a pas jeune homme dans le formulaire.
Ah,
donc,
bon.
C'est une façon de dire que peu importe si on a une vie sentimentale, si on est marié ou pas marié, on est considéré comme homme ou femme, en fait.
Ouais,
il n'y a pas de non-genré, alors.
C'est pas,
mais moi, je trouve ça mignon, moi, mademoiselle.
Mais c'était mignon, mademoiselle.
Moi, je comprends que dans la vie,
quand tu inscris tes enfants,
dire,
notamment tes filles, tu dis madame alors qu'elle a 4 ans.
Exactement.
Bah oui, c'est pour ça que t'es vieille tout de suite, quoi.
Il faut mettre femme et
t'appelles madame à la naissance.
On appelle tout le monde monsieur, ça va, on s'emmerde pas.
Je suis d'accord. Voilà, là au moins, ça c'est une vraie avancée.
Non, mais après, c'est un marqueur, il y a un moment où il faut prendre la décision.
Ouais, mais tu pouvais aussi ne rien faire, quoi. Laisser comme c'était pas grave.
C'était pas la priorité, mais je trouve pas ça complètement ridicule sur le fond, en fait. Mais on peut continuer à dire mademoiselle dans la vie, on le fait, mais d'un point de vue état civil, soit on est un homme, soit on est une femme, pour l'instant on reconnaît, voilà, ces deux genres-là.
Femelle.
Voilà, mâle, femelle, si tu veux, là c'est bestial.
Mais de toute façon, je crois que dans la chanson, il y a, quoi qu'il arrive, une mauvaise foi à partir du moment où elle veut pas qu'on l'appelle madame. Donc, tout ce qui a été fait pour plus qu'on l'appelle madame est une catastrophe.
Oui, c'est ça.
En musique, cette fois-ci, Michel Bernier, vous écoutiez en 67. On est très comédie musicale aussi avec ce genre de chansons.
J'aimais beaucoup ça et je chantais ça à tue-tête dans la cour de l'école et je me faisais punir tout le temps parce que c'était.
Pourquoi
je sais pas, ils aimaient pas qu'on chante
trop
ça.
Festif.
Ouais, Trochella, quoi, peut-être, je sais pas.
Et quel genre d'école dans le
coup, quel genre d'école bah, là, ça devait être.
Mais en pension.
Est-ce que c'était en pension
67.
Ça, ouais, c'est ça. Ouais.
En fait, les enfants, généralement, pleurent à l'idée d'être envoyés en pension. Mmh. Et vous, vous et moi, le demandez.
J'ai... Ouais, j'ai voulu y aller, ouais.
Pourquoi donc?
Ben, parce que j'étais... je vais faire pleurer dans les chaumières. Non, mais en fait, mes parents bossaient beaucoup. Moi, j'étais fille unique, donc j'étais beaucoup seule. Et donc, j'attendais le soir, tard. Et, et c'est vrai qu'un jour, j'ai vu un documentaire sur des pensions qui n'étaient pas des pensions catholiques, puisque chez moi, c'était hors de question. Donc, et je me suis dit, mais ça a l'air bien. Ils sont, personne n'est seul, c'est super. Et donc, j'ai dit ça à ma mère. Je dis, maman, je vais aller en pension. Elle qui était allée pendant la guerre, mais pas un très bon souvenir. Donc, bon, ben, ok, on va visiter des pensions, puis celle qui te plaira le plus, ben, on t'ira.
Et donc, vous étiez à laquelle alors?
Et donc, j'étais au Cournado, à Corbeil-Essonnes. Voilà, à Draveil, château, à côté de Draveil, dans un château. Et je suis arrivée, je suis tombée sur un directeur super sympa, avec une grosse moustache, et que tout le monde l'appelait tonton, je trouvais ça bien. Et surtout, la pension était mixte.
Ouais,
alors justement, mais là il y avait un problème aussi, garçon-fille.
Ouais. Vous avez milité, vous avez été une petite révolutionnaire
Sur le pain.
Mini petite révolutionnaire, ouais, non, parce que je trouvais qu'il y avait des différences entre les baguettes pour les garçons, les baguettes pour les filles.
C'est incroyable.
Que nous on avait du pain dur et que les garçons avaient du pain frais. Donc, donc j'étais partie avec la corbeille chez le tonton en question qui riait comme un fou et le lendemain on avait tout du pain frais, quoi, parce qu'il n'a pas compris non plus pourquoi. Non, je pense que le mec qui distribuait le pain. Ah, mais je ne suis jamais su pourquoi.
Ce mec d'un odieux macho, il a dit...
J'ai dit, les filles, elles vont bouffer du pain dur.
C'est fou, ça. C'est fou. Quelques années après, en 88, vous écoutiez Sade. No need to ask, he's a smooth operator. C'est du velours. Hein. 88, cette musique vous renvoie quoi comme image?
Je sais pas. Je pense qu'à ce moment-là, on n'avait pas eu beaucoup de musique un peu comme ça, un peu douce, à la fois variette, à la fois chic, à la fois jazz, à la fois. Je sais pas. Il y avait quelque chose de mélangé et qui m'a plu. J'aimais beaucoup la voix de cette fille. Je la trouvais d'une beauté absolue, mais qui n'en faisait pas cas non plus. Ouais, enfin, je trouvais que c'était quelqu'un. J'avais la sensation de quelqu'un de simple et j'aimais bien. Voilà, c'était agréable.
Il y avait
agréable.
Un petit côté Rita Hayworth.
Il y avait quelque chose chez elle, je sais pas, comme quelqu'un qui venait un peu de nulle part, qui est arrivé dans notre monde musical, un peu comme ça, et j'aimais beaucoup.
Il se passe quoi en 88?
88, c'est les filles.
Ouais.
Les filles, le spectacle avec Mimi Mati, enfin la troupe, et Isabelle de Botton. Vous montez plusieurs spectacles ensemble, Existe en trois tailles, Le Gros Navion, qui sont des vrais succès populaires.
Ouais.
Et c'est une histoire qui continue toujours d'amitié avec les filles.
Ah oui, oui, bien sûr. On peut pas. Enfin, on est resté. Il y a eu le Théâtre de Bouvard là où on s'est connus, donc 82. Et puis après, effectivement, il y a eu deux spectacles, des émissions de radio ensemble.
Mimi Mati était là le soir où je suis venue vous voir, Michel.
Voilà, qui
était...
des téléfilms ensemble. Enfin bon, je veux dire, on est très, très, très liés. Et voilà, ça s'arrêtera jamais, quoi. C'est comme ça. On a commencé ensemble, on continue nos carrières ensemble. Isabelle, elle commence demain au Théâtre du Gymnase. Et donc, on est liés, que c'est de l'amour, quoi. Voilà.
Vous n'êtes jamais fâchés?
Oh, ça a été un peu compliqué.
Je parle pas de désaccord. Hein. Je parle
non,
de fâcherie,
on s'est jamais fâché. Non. Ça a été un peu compliqué quand on s'est séparés, parce que c'est jamais simple d'un groupe qui sépare, évidemment, parce que c'est une protection, le groupe. On se dit tant qu'on est dans le groupe, on est bien, quoi.
C'est ça.
Arriver à lâcher le truc, à se dire je vais essayer toute seule.
Chacun pour soi.
Voilà, c'est plus difficile.
Il y a un V-Squad qui est parti en dépression.
Ouais, c'est vrai. Mais ça m'étonne pas. Mais ça m'étonne pas.
En 98, vous écoutiez Rita Mitsouko. Les histoires d'aller. Forcément, si elles finissent, c'est que c'est mal.
Mais c'était la fin du spectacle du Démon de Midi. Voilà, c'était le générique de fin du spectacle. Parce que je trouvais un truc, cette chanson était vraiment exactement faite pour le sujet. Et que, en plus, évidemment, le talent de Catherine Ringer et Fred Chichin, qui était. Voilà, moi j'adore cette musique-là. Je trouve qu'elle est à la. Parce qu'elle dit des choses terribles, et en même temps, c'est une pêche folle. C'est un, voilà,
c'est
quoi.
Le principe, même Marcia Baila, c'est l'histoire d'une danseuse qui a. qui a un cancer, voilà. Qui meurt d'un cancer.
Moi, je trouve ça incroyable d'arriver à mettre cette énergie dans des choses aussi terribles.
Et la plus dingue, voilà. C'est le petit train.
Ah ouais.
Qui est sur les trains de la déportation, mais sur une musique très légère.
Mais moi, je trouve que c'est leur force et que effectivement, ça, cette manière de finir le spectacle dans quelque chose de péchu et en même temps de redire encore, allez, les histoires d'amour, c'est quand même compliqué.
Mais ça, pardon, c'est la politesse que l'on doit à la vie, c'est parler de choses graves, mais en ayant quand même une toile de fond joyeuse.
Bah, moi, je pense que c'est important parce que c'est un décalage. Ça vous permet d'être moins quand même dans le drame en permanence, parce qu'autrement, on vit plus. Et que de mettre des éclairages un peu rigolos, ça permet de vivre mieux. Et puis surtout, de moins se laisser influencer par les gens qui voudraient faire de vous des moutons. Parce que l'humour est une lucidité. L'humour, c'est de l'intelligence. Et que tous les gens pleins d'humour et d'intelligence sont des gens qui restent indépendants et libres. Voilà.
Et 98, c'est vraiment cette année où vous vous lancez aussi seul sur scène. C'est votre premier One Woman Show, adapté là encore d'une bande dessinée.
Oui.
C'est jamais très loin, c'est une BD de Florence Sestac.
Oui. C'est Marie-Pascale Ostery qui a eu cette BD entre les mains. À l'époque, moi je cherchais, je me disais, je parlais du groupe, comme il n'y avait plus le groupe, que j'avais joué une autre pièce entre temps, qui s'appelait Bonne année toi-même, et que j'avais peut-être envie d'essayer d'être seule sur scène et de savoir ce que moi, je valais en dehors du groupe. Et donc, on a écrit plein de débuts de spectacle qui ne nous convenaient pas, et puis un jour elle est tombée sur cette BD, et puis elle m'a dit, écoute, lis ça, franchement, il y a peut-être quelque chose à faire.
Un 500 000 de spectateurs, quand même. Non, c'est tous les soirs.
T'imagines la taille de la salle, un truc de fou.
Comment vous êtes rencontrée avec Marie-Pascale?
Alors, moi, j'avais tourné un film, j'aime bien faire, c'est dommage qu'on soit à la radio, mais je crois qu'il y a des caméras, avec Jean-Marc Barre. Et...
mouvement de cheveux.
Qu'est-ce qui se passe? Chaleur?
Ah ouais. Et le réalisateur, Étienne Daen, à l'époque, il avait un projet de film qui était dans les bureaux de TF1. Et donc, il me dit, est-ce que tu veux faire, comme on appelle ça, un script doctor, quoi? Aller jeter un œil sur les scénarios, voir si on peut y en faire quelque chose. Et donc, j'ai eu rendez-vous avec Marie-Pascale Ostery, qui, elle, était au développement de scénarios pour TF1. Voilà.
Et là, vous vous êtes rencontrés vraiment.
Et là, ça a été un coup de foudre, je dirais, un peu curieux, parce qu'en fait, c'est nos tailles hautes qui nous ont aussi rapprochés. C'est-à-dire qu'elle fait 1m81, et moi 1m75, et que souvent, on a plutôt tendance à baisser la tête quand on dit bonjour aux gens, et que là, on était un peu les yeux dans les yeux, et ça nous a fait du bien.
En 2015-2016, vous écoutiez Kenji.
Ça, c'est de la musique, ma vie.
Mais ça met une patate d'enfer, ça.
Vous êtes fan de Kenji, vous l'avez rencontré?
Oui, j'adore. Mais moi, j'adore cette musique-là. Je ne sais pas pourquoi, mais je dois avoir des origines cachées de gypsy. J'adore les poules et les caravanes, c'est bizarre.
c'est ça, cherchez pas plus loin.
C'est pas du tout cliché.
Les clichés.
Oh là là.
Il y a le hérisson aussi.
Mais j'adore cette musique, j'adore ça. Kenji, c'est un mec adorable, charmantissime, plein de talent. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette chanson-là venait de sortir. Et que le réalisateur de La Stagiaire, premier réalisateur, s'appelle Christophe Campos, et ses origines espagnoles et tout ça. Et puis on chantait l'andalouse, et donc ça nous mettait en joie tous les jours. On mettait la chanson de Kenji.
Alors quel rapport avec Femme Like You de Camaro?
Mais j'aime tout.
Oui, non, mais là vous dites qu'en 2015-2016, vous écoutiez aussi bien Camaro que Kenji.
Mais moi j'écoute tout. Moi,
j'entends. Sauf que ça, c'est 10 ans après la sortie. Donc...
Mais c'est pas grave, on s'en fout. On est. Non, mais moi j'aime tout, moi. Moi, je peux écouter Jean Ferrat, pleurer avec Barbara, m'éclater avec Liza, écouter Kenji, écouter Camaro, chanter, saper comme jamais. Moi, tout me va, moi. Tout me va à partir du moment où ça provoque de l'émotion. Ah, je peux écouter Carmen. Ah, si tu ne m'aimes pas, je t'aime.
Je croyais le Carmen de Stromae. Non, je blague.
Non, ça je peux. Okay. Mais parce qu'il y a que des tubes.
Vous, Michel, dans ces années-là, 2015-2016, c'est le début de La Stagiaire, cette série diffusée sur France 3 pour laquelle on vous a reçu à plusieurs reprises, qui est à chaque fois un carton en audience. C'est personnage tout de suite très attachant, on a envie de vous suivre dans ces aventures. Et c'est aussi, et c'est une très belle expérience, c'est le théâtre avec Charlotte, votre fille, Charlotte Gassiot, dans une pièce très très jolie, Je t'ai laissé un message sur le frigo.
À pleurer.
Oui. Ben oui, c'était un moment
émouvant,
émouvant, incroyable, délicieux. Je me suis, je le savais, mais ça n'a fait que confirmer mon admiration pour ma fille, que je trouve une grande comédienne. Elle a su, parce que c'était quand même un message compliqué, c'était donc le dialogue entre une mère et sa fille, la mère atteinte d'un cancer du sein, qui s'attend à ne pas survivre à ça, et donc c'était ce dialogue entre cette fille adolescente et sa maman, et je sais que quand on a commencé à travailler, on avait beaucoup de mal à ne pas pleurer, enfin surtout moi, et je sais qu'il y avait deux lettres à la fin du spectacle où elle parlait seule, ma fille, et je l'admirais, je me disais, mais comment elle fait pour tenir, et elle était, mais vraiment c'est, je sais qu'à chaque fois on dit ouais c'est sa fille, mais vraiment franchement c'est une super comédienne et c'est une fille qui a quelque chose en plus. Elle a la lumière en elle.
Elle est
vraiment ouais, magnifique.
C'est clair. On va revenir au sujet, au point de départ en tout cas de Vive Demain, la pièce spectacle interprétée par Michel Bernier au Théâtre des Variétés avec vous, Pierre-Antoine Delhomé. Merci de venir à ce micro. Vous avez co-signé avec Marion Coquet aux éditions de l'Observatoire Au Bon Vieux Temps. Dans votre ouvrage, vous passez en revue tous les maux qui affectaient nos ancêtres, mortalité infantile, la peste, les hivers meurtriers. Et pourtant, certains regrettent ce bon vieux temps.
Oui, bah, pas certains. Une majorité de Français considèrent que...
Mais pas un sondage, avant. Ouais.
Ouais, il y a un sondage qui a été fait il y a 2 ans par des économistes très sérieux avec l'aide de l'INSEE. On a posé la question, si vous aviez le choix, à quelle époque vous aimeriez vivre. 70% des Français ont répondu une époque passée.
Ah oui.
5%... l'avenir, enfin une époque future,
ouais, mais,
et 25% l'époque actuelle.
Ouais, mais la question, à quelle époque aimeriez-vous vivre, on pense pas tout de suite à aujourd'hui, on fait forcément la mécanique de la recherche. À quelle époque, c'est pas êtes-vous heureux maintenant ou aimeriez-vous vivre à une autre époque, à ce moment-là, moi je pense que la question est un tout petit peu...
Faut refaire faussée. Le sondage.
Non, vous pas non mais vous êtes pas d'accord sondage. Avec moi.
Si, parce que elle est induite.
Déjà, employer le terme époque...
Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce sondage, ils ont voulu établir les liens qui existaient entre ce culte du bon vieux temps, cette nostalgie du bon vieux temps qu'il y a en France, et le pessimisme des Français.
C'est associé.
Qui est un pessimisme structurel.
Alors expliquez-nous, vous n'êtes pas étonné que les gens aient ce regard vers le passé?
Non, c'est pas étonnant parce qu'en France, on a une vision très idéalisée du passé. On a construit un roman national très très beau. On a soigneusement photoshopé. Ouais. On en a effacé les épisodes les plus durs.
Les plus noirs,
par exemple, de Louis XIV, on se souvient des fastes de Versailles, du génie de la littérature classique. On a oublié que pendant la grande famine de 1693-1694, il y a 1,5 million de Français qui meurent de faim. Mm-hmm. Donc il y a tout cette idée de... Et puis il y a aussi ce syndrome de vieille nation qu'on a en France. Et l'idée qu'on a été une grande nation
mais
et qu'aujourd'hui...
Mais c'est pas propre à tous les pays ou toutes les nations qui ont eu une grosse histoire et qui ont un certain patrimoine.
Oui, c'est culturel. Ou est-ce que c'est propre à la France ?
C'est particulièrement développé en France. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a un pessimisme particulièrement intense en France aussi.
Et il y a c'est décliniste pour vous ce genre de
moi je suis comme Michel Bernier, je suis très on a écrit ce livre avec Marion parce que on en avait absolument ras-le-bol d'entendre à longueur de journée les Éric Zemmour et compagnie diffuser cette énorme fake news selon laquelle on vivait mieux avant quoi. Que les gens étaient plus heureux du temps de Louis XIV ou de Napoléon.
Oui, mais il y a bien des trucs qui étaient mieux avant. Qu'est-ce qui était mieux avant
si on J'ai écouté vos chroniqueurs. On a voulu, pour ne rien vous cacher, avec Marion, on a voulu à un moment faire un chapitre pour essayer de lister les trucs effectivement qui contredisaient un peu notre thèse. Bah, on a eu du mal. Hein.
Les légumes de nos grands-parents.
Oui, alors sur la nourriture, c'est un
parce
thème.
Parce que si on voit la tendance maintenant de dire. Il faut suivre les saisons. Il faut éviter d'aller chercher des fruits ou des légumes qui ont pris l'avion et attaqué justement notre planète pour avoir des tomates en plein mois de février, alors que c'est pas la saison. Plus les pesticides et toutes les saloperies qu'on peut mettre
sur
le
sol.
C'est très intéressant.
On peut se dire que c'était mieux avant parce que il y avait le potager et puis on prenait ce qui poussait.
C'est très intéressant le thème de la nourriture parce que là aussi c'est un passé idéalisé. On entend les critiques gastronomique qui nous parle avec des trémolos dans la voix des cuisines
des
du terroir.
Des
légumes oubliés.
Il faut quand même pas oublier que
même dans la pub, on nous encourage à acheter des produits, ces recettes d'antan.
Le côté authentique.
Ouais. Jusqu'à il y a un siècle, le menu quotidien unique et parfaitement monotone du paysan français qui constituait la majorité de la population, c'était une soupe au chou ou aux fèves dans laquelle on trempait un morceau de pain de sel avec le rassis. Ouais, c'était bien. Enfin, les gens mouraient de faim. Les expressions crever de faim, crever de froid, qui sont aujourd'hui des images. Il n'y a pas si longtemps, c'était des expressions qu'il fallait prendre au sens propre.
Mais pardon, t'es en train de nous casser l'ambiance.
Ouais, là. Oui,
je vais faire un petit truc festif.
À l'inverse, manger un sanglier à chaque repas, c'est pas non plus bon pour la santé. On le sait très bien.
Non, mais ça aussi, ça tient beaucoup à la façon dont l'histoire est racontée en France. C'est l'histoire qu'on raconte à travers la vie des reines et des rois, des élites privilégiées, mais le sort des masses, on s'en fiche complètement. Ouais.
Est-ce qu'il y a un âge où on bascule justement dans le c'était mieux avant, comme le dit Michel Bernier dans son spectacle, quand on a une vingtaine d'années, on peut pas dire c'était mieux avant.
Bah non, le passé est court, donc voilà, évidemment on a un peu de mal avec ça.
Oui, statistiquement, il y a plus de gens qui regrettent le bon vieux temps dans les maisons de retraite que dans les lycées.
Oui.
Donc est-ce que c'est finalement
ma fille qui a 4 ans, elle l'a jamais dit encore.
Est-ce que c'est pas sa jeunesse finalement?
Ce qu'il faut distinguer, c'est la nostalgie individuelle. C'est-à-dire que la nostalgie, c'est un sentiment naturel, c'est une dimension existentielle. On regrette effectivement ses rêves de jeunesse, etc. Ce qui est plus embêtant, c'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui, c'est quand la nostalgie est un peu instrumentalisée à des fins idéologiques, politiques, et que ça devient une opinion collective et majoritaire. On le voit très bien dans le discours de l'extrême droite. L'extrême droite, aujourd'hui, c'est quoi la nostalgie? C'est la nostalgie d'une France blanche et pure et celte, sans immigrés venus d'Afrique.
Ouais, mais ça marchait mieux,
Sauf que
la nostalgie est vraiment instrumentalisée.
Ouais, la France aujourd'hui n'est pas celle justement des Gaulois, mais celle qui a été envahie par les Romains et qui a entre guillemets subi cette invasion.
Ouais. Oui, bien sûr. Non, vous avez raison. Enfin, on voit bien que c'est.
Est-ce que la peur, justement, enfin, est-ce que l'attrait du passé vient de la peur de l'avenir?
Oui, il y a toujours eu de la peur, la peur de l'avenir. Faut aussi voir que les motifs de peur, ils ont quand même diminué par rapport aux époques passées. C'est-à-dire que avant, on avait peur de Satan, on avait peur de Dieu, on avait peur de se faire dévorer par les loups, on avait peur de la disette, on avait peur de l'étranger de passage, on avait peur de tout. Oui, on avait peur de la maladie. Enfin, on a une mémoire très courte des malheurs.
Non, mais donc quand Michel Bernier.
On fixe pas les mauvais souvenirs.
Voilà, c'est ça. Mais par exemple, qui parle encore de la variole aujourd'hui?
Oui.
Moi, des fois.
Ouais.
C'est pas le nom d'un resto, tu vas souvent.
C'est là où je t'emmène, tu t'emmènes.
Faut qu'on fasse des paris avec la vérole.
La petite vérole. Non, mais la variole,
c'est une statistique qui est inouïe. C'est, ça a provoqué la mort de 400 millions de personnes au XXe siècle dans le monde. C'est aujourd'hui éradiqué. Plus personne n'en parle. Moi, j'ai la chance d'appartenir à une génération qui n'a pas connu la guerre sur le sol français. Je suis la première génération de ma famille à pouvoir savourer ça. Mon père avait connu la guerre, mon grand-père et toutes les générations de Delomé avant moi, elles ont connu la guerre sur le sol français.
Est-ce que c'est être inconscient ou naïf de faire comme Michel Bernier, de crier donc vive demain?
Non, c'est une position ultra minoritaire, mais c'est un discours ultra minoritaire, mais c'est pas parce qu'il est ultra minoritaire qu'il est irrationnel. Et puis aujourd'hui, c'est la journée de la lutte contre le cancer. C'est une raison suffisante pour dire vive demain et que les chercheurs puissent trouver des remèdes comme ils en ont trouvé pour la variole, etc. Mais qu'ils en trouvent encore plus
cas,
et que la maladie puisse être éradiquée comme d'autres maladies avant.
Et autre domaine sur lequel on a tendance à dire c'était mieux avant, c'est sur les hommes politiques et leur niveau intellectuel, leur capacité à s'exprimer, leurs humanités. Ont-ils fait leurs humanités? Quel regard vous portez là-dessus?
Moi, je suis assez dubitatif là-dessus, et notamment il y a un fait qui est assez significatif, c'est le domaine de la corruption. On considère aujourd'hui que les...
Tous pourris.
Ouais, c'est ça. Et que les hommes politiques aujourd'hui sont beaucoup plus corrompus qu'ils étaient il y a 30-40 ans. Ce qui est, a priori, très faux. Mais ça tient beaucoup...
On ne le savait pas il y a 30-40 ans.
Exactement, c'est ça. Et ça tient beaucoup à un phénomène qui est très intéressant, qui s'appelle le paradoxe de Tocqueville, qui est que plus un mal devient rare, plus il est jugé insupportable, ouais. plus il devient insupportable. Dire que ce qu'on acceptait avant parce que c'était très répandu, aujourd'hui on ne supporte plus parce que ça devient assez rare. Et ça marche sur plein de, dans plein de domaines. La violence, par exemple. On dit on vit une société, la violence est insupportable aujourd'hui. On n'a jamais vu une époque aussi violente. C'est faux. Au Moyen-Âge, ou même en 1900, le taux d'homicide était trois fois plus élevé qu'aujourd'hui.
C'est encore une façon d'instrumentaliser l'actualité, de faire peur aussi.
Oui, c'est ça.
De
c'est
provoquer
ça
le retrait et donc un vote qui, généralement...
Le culte du bon vieux temps, c'est vraiment une façon d'aviver les peurs et qui est très dangereuse.
Alors, à défaut de ne pas être un vif demain, c'est au moins un carpe diem, ce livre. Au bon vieux temps, aux éditions de l'Observatoire, Marion Coquet et vous, Pierre-Antoine Delomé, merci d'être venu à ce micro.
Merci à vous.
Bonne journée. Tanguy Pastureau, bonjour. Bonjour. Tanguy, j'adore les baskets, vous savez.
Oui, bah, je sais, c'est l'une de vos grandes passions. Vous en portez même des disons surprenantes, avec des clous parfois. Ce qui fait que les fans de SM se déçapent devant vous en vous disant j'étais très méchant, je mérite un bon coup de pied. Mais figurez-vous que vous êtes deux en France. Brigitte Macron aussi, les baskets, c'est son truc.
Ah ouais.
Ok, on en parle après les infos de midi. Bande originale avec Léa Cadeau-Boudéli, Daniel Morin, Tom Villa, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau,
bonjour.
Et notre invité Michel Bernier.
Oui, bonjour, bonjour.
Avec ce... Comment voulez-vous qu'on le présente d'ailleurs ? C'est pas un seul en scène réellement, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un... On dit quoi ? Un spectacle ? Vive demain. Non mais c'est vrai, comment vous le qualifiez-vous ?
C'est un one woman.
Ben ouais, un seul en scène, c'est bien, parce que seul en scène, c'est pas mal, oui.
Ah oui, mais les musiciens.
Les mises en scène avec des faux musiciens.
Non, ce sont des
vrais.
Des êtres humains.
Ce sont des
filmés.
Êtres humains.
Ou seul en scène, mais bien accompagné.
Bravo.
Oh, joli. Ceci était la fin de la carrière de Daniel Morin.
Très beau jubilé.
Enfin.
Un bon mot.
Il lui manquera.
Ah oui, c'est vrai, on l'aimait bien.
Hein. Ah, sans déconner, je serais peut-être payé.
Mais en tout cas, c'est un spectacle. C'est clairement un spectacle avec ce que nous expliquions tout à l'heure, le respect du public. Il y a du travail qui a été fait, qui est bien structuré. Vous faites même des recherches avec une espèce de frise, voilà, historique. Je cherchais le terme de frise historique pour remonter jusqu'à la Mésopotamie, pour dire que c'était pas forcément si bien que ça avant.
Ben, c'est-à-dire que quand on reprend l'idée de c'était mieux avant quoi ? C'était, c'est-à-dire que c'est à l'invention de la roue, personne n'a dit oh ben non, c'était mieux avant. L'invention de l'anesthésie, personne n'a dit oh ben non, c'était mieux avant. Continuer à me couper une jambe en me donnant des léthers pour m'endormir. Il y a plein de trucs comme ça. On se dit
rien que ça,
quoi.
Rien que ça, ça doit clore le débat. C'est fini. Mais après ces deux exemplaires, il n'y a plus rien à dire.
C'est fini. Donc il y a pas, on peut pas se réjouir du progrès dont on a été bénéficiaire, ça c'est pas possible.
Michel Bernier, c'est drôle, c'est intelligent, c'est au théâtre des variétés, ça s'appelle Vive demain. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, ce week-end, encore une polémique cette fois-ci, mais à propos de Brigitte Macron.
Oui, Brigitte Macron, c'est cette dame en jean slim qui s'ennuie dans son F-280, tandis que son mari passe sa life à raconter à des Français dans des réunions à quel point il est grand et il a raison. Hein, surtout, le grand débat national, pour lui, c'est une masturbation, mais habillée. Donc Brigitte a une vie pourrie. Elle attend 2022 pour trouver son existence d'avant, les petits week-ends au Touquet à mater le boule présidentiel, pendant que Macron joue au tennis en short. Mais il arrive que, quel est le droit de sortir de sa prison dorée qui pue le vieux et accompagne le chef d'État à l'étranger. C'est une tradition. Les autochtones sont en couple, ils veulent un couple. C'est comme au Cap d'Agde, sauf qu'à aucun moment, quelqu'un s'écrit « Allez les filles, toutes sur papy René, il a pas fait 500 bornes depuis Mont-de-Marsan pour tricoter des capotes en laine. » Il y a 10 jours, Emmanuel et Brigitte, nos tic et tac du quinquennat planté, sont donc partis en Égypte, riant pays où on part en tôle si on est athée ou si on est gay, ayant à sa tête un despote même pas éclairé, le général Al-Sissi, lequel soit avec sa femme. Macron n'avait pas le choix. Il s'est dit, si je viens seul, je vais tenir la chandelle pendant que Ramsès IV papouille sa chérie. Merci. Alors sur place, tout se passe bien. Al-Sissi dit à Macron, tiens, vieux, t'as le bonjour de Benalla. Il était là il y a 15 jours. J'ai pas compris. Il vendait des passeports dans le souk du Caire. Et le pouvoir traîne les Macrons à Abou Simbel, un site de l'Égypte antique en ruine parce que les mecs n'ont pas d'amido. Alors Macron est en costard noir et souliers noirs, les fringues protocolaires, quoi. Hein, même s'il avait fait un hammam, il serait allé comme ça. Brigitte en basket. Oui, auditeur d'Inter vêtu de velours, tu tressailles, mais on est en 2019. Même la première dame porte des skates bas. Elle est cool et smooth. Et encore un tas d'anglicismes pourris qui veulent rien dire. Alors en France, on n'avait pas relevé parce que le statut de première dame n'existe pas. Donc Brigitte, on s'en tape. Même si elle déboulait en mini sur la parade Disney en criant à un rapetou, je t'ai reconnu Patrick Balkany, où sont tes frères, on s'en ficherait comme Alain Souchon de la première fois où il a cassé son peigne en tentant de démêler son gros nœud de cheveux. Seulement les Anglais, ces gens perfides qui nous haïssent, sauf l'été quand il s'agit de venir se murger sur nos plages et qui n'ont rien fait de bien à part inventer les Smiths. Eux sont fascinés par Brigitte. Le Daily Mail, un tabloïd, mot qu'on a créé parce que journal de merde est un terme trop grossier, a donc fait un article sur le look de Bri-Bri en Égypte, en disant qu'elle était mal sapée. Ce sont les types qui se farcissent Theresa May, qui chaque matin fait un trou dans le napperon de sa tante avant de l'enfiler et de s'en faire un petit haut, qui nous font la leçon à nous en matière de stylisme. C'est aussi ridicule que quand Erdogan, le turc cintré, dénonce en chouinant la répression policière en France, après quoi il retourne à son barbecue cuire son steak d'opposant politique.
Alors pourquoi cet article de presse en Angleterre a suscité la polémique ?
Eh bien parce que des Français l'ont lu, hein, les quatre Français qui se débrouillent en anglais, et ont remarqué que les baskets de Brigitte étaient des Vuitton, modèle exclusif, même pas en vente au public. À la base, elle voulait marcher avec les deux pieds dans un sac à main. Les mecs ont eu pitié, ils lui ont conçu des baskets. Tarif estimé des souliers, 750€, 325 par pied. C'est là qu'on se dit que les cul-de-jatte, ils gagnent pas mal en pouvoir d'achat. Hein, le prochain rhum sans jambes qui fait la manche, je lui dis « Ouais, bah arrête, tu m'as pris pour une buse ». Alors ce sont de très belles baskets couleur or à l'arrière. C'est-à-dire que vous croisez Ribéry avec, il s'allonge par terre, il commence à les bouffer. Mais sur les forums des Gilets jaunes, c'est vite parti. On s'est mis à lire des messages comme « Ouais, Brigitte a la belle vie, rien n'est trop beau pour elle, avec nos impôts en plus ». Alors c'est vrai qu'on est dans une période de crispation sociale, des gens ont faim, donc on doit faire attention aux symboles. Si elle était venue à Abou Simbel en tongs, avec un débardeur Jennifer et une ceinture Promode, un tour de dromadaire ensuite et une soirée au Club Med à se déchirer à l'alcool de date, la facture totale aurait été de 47€ pour 4 jours, là on serait dit « Elle a compris la leçon, elle est avec nous, elle serait devenue une icône de la lutte contre la précarité ». Sœur Emmanuelle en Égypte, elle a passé 20 ans à porter la même robe tachée. Les 750€ des baskets de Brigitte, c'est ce qu'elle a claqué en fringues de sa naissance à sa mort. Bah, on a tous une bonne image d'elle. Alors hier, les proches de Brigitte Macron, la Bri-Bri Team, a répliqué. Ils ont révélé qu'en fait, c'était une gueuse. Une gueuse, puisque ces fringues sont prêtées par Vuitton. Et même, disent-ils, les chaussures. À la fin du mois, il y a aussi Etam Lingerie qui vient chercher les slips. Mais question, qui a envie de mettre des baskets déjà portées ? D'autant qu'en Égypte, il fait chaud, elle a dû suer dedans, mais c'est immonde. Alors la vérité, c'est donc que si demain Vuitton se fâche avec Brigitte, parce que Bernard Arnault, le boss, sera devenu gilet jaune, hein, il a jamais aimé payer trop de taxes, hein. Bon bah il récupère tout, et la pauvre se retrouve sans rien. Or autant moi, ça me plairait, parce que j'aime que les gens soient nus, c'est rigolo quand ils courent. Autant la société n'est pas prête, trop coincée, trop pays de la mode, trop Christina Cordula. Brigitte donc n'a rien à elle, sa vie n'est qu'un immense prêt de fringues pas toujours top, on devrait la plaindre plutôt que de l'attaquer.
Merci Tanguy Passeron.
La bande originale, sur France Inter.
Sans commentaire, au théâtre des variétés. Non, j'attendais, personne ne dit rien, très bien. Vive demain au théâtre des variétés, vive demain avec un immense sourire, d'abord pour le public, mais pour vous aussi en scène, même s'il y a des moments où vous parlez justement de l'âge avec une honnêteté qui est récurrente chez vous et qui fait même du bien, de dire quel regard la société a sur moi, la femme de 60 ans, et vous parler des premiers signes, et c'est marrant parce que là, on s'identifie, en tout cas moi je me suis identifié aux premières commandes que l'on fait sur internet, où il faut scroller la date pour aller chercher mettre sa date de naissance, et là on dit waouh, et là on la remonte.
J'ai déjà tout ça derrière moi. Et on était obligé de me le rappeler, donc.
C'est drôle, parce que taper sa date de naissance, on a l'habitude. Bah, oui, mais quand on voit dérouler toutes les années en arrière...
Moi, je le sens deux fois, moi.
Ah, oui, c'est ça. Plus ça va, plus on se dit encore. Oh là là, oh là là, oh là là. Et il y a l'autre jour, je sais plus, mais j'ai vu à un moment, ça s'arrête. Il y a le truc, genre, de toute façon, ils sont morts. Il y a un truc, même si j'avais envie de déconner avec, même si j'avais envie de donner la date de naissance de Marie-Antoinette, je pourrais même pas.
Ça c'est... Alors, vous parlez aussi de santé, de votre kiné, non, c'est ça?
Non, j'ai dit qu'à un moment, il y a, avant, quand on était jeune, on se donnait les tuyaux pour les bons restos, les bons endroits où aller. Maintenant, on se donne des cartes de visite de rhumatologue, de cardiologue, de spécialiste des genoux. Et donc, il y a toujours
l'ostéo
qui te dit, dis donc, Michel, quand tu te fais opérer de la hanche, surtout, tu me le dis, hein, parce que moi, j'ai un kiné, il est génial. Tout le monde vous dit ça. D'abord, tout le monde a le kiné le meilleur de la planète. Ouais. On se demande où sont les
mauvais. C'est moi qui ai le meilleur kiné.
Donc, c'est vrai qu'il y a tout d'un coup toute une façon de se parler. Moi, je sais que perso, hein, dans ma vraie vie, dès que les copains viennent à la maison, parce qu'on est tous à peu près du même âge, dès qu'il y en a un qui commence à dire je viens de récupérer mes analyses, j'ai stop. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de nos maladies, on ne parle pas de nos problèmes de ci, de ça. Je refuse de parler de ça.
Alors, il y a le c'était mieux avant, évidemment, que vous bannissez, on l'a compris, sur lequel on s'amuse.
CMA.
Et on rit totalement. Ouais, ça, l'acronyme,
c'était mieux avant,
CMA. Mais vous êtes quand même consciente de la pollution que nous engendrons et de l'état dans lequel on va laisser. Et puis là, c'est
la maman. Laissé, déjà.
C'est la maman et la grand-mère qui part en disant mais qu'est-ce que je vais laisser comme planète à mes petits-enfants ?
Ben oui, c'est déjà le constat est quand même un peu difficile. Hein. On voit bien que bon, il y a du boulot. Il y en a qui font, mais il y a encore du boulot. Je crois qu'à partir du moment où on a envie de réfléchir, donc évidemment après moi je pars un peu dans des dingueries parce qu'autrement on peut pas être non plus didactique.
Oui, on rit.
Et,
oui,
il faut que ce
mais
soit
le fond,
rigolo,
mais
etc.
Mais le fond est toujours étayé. Ouais.
Ben c'est vrai que l'idée de par exemple de diviser les routes en voies lentes et voies rapides pour ceux qui roulent à plusieurs ou à un seul.
Super.
Je pense que c'est un moyen, je crois que ça existe déjà aux États-Unis, à Los Angeles. Je pense que c'est un bon système aussi pour se dire, pour réfléchir un peu à une manière de changer
sa covoiturage,
sa manière de changer sa façon de vivre.
C'est vrai que la malice, c'est de se dire pourquoi punir, entre guillemets, ceux qui polluent, avec des taxes, justement, en disant, OK, vous allez polluer, donc on va faire payer extrêmement cher. Et à l'inverse, ce qui serait malin,
c'est de
favoriser ceux qui ne polluent pas.
Ce sera moins pour toi. C'est ça. Voilà. C'est de changer un peu la donne. C'est vrai qu'on a l'habitude de la répression. Et peut-être, pour encourager les gens, on sait très bien d'ailleurs que si on n'a pas un intérêt financier à faire les choses, on a plus de mal à le faire. Parce que quelque part, on pense toujours qu'on va échapper à la contravention, qu'on va tomber le bonjour, que ce sera pas ce jour-là, etc.
Pour manger moins de viande, il faudrait aller chez le boucher, ne pas acheter la viande, et le boucher vous donne un billet de 5 euros.
En voilà,
échange.
Voilà,
pas
voilà.
Je ne suis pas sûr que tous d'accord.
Non,
mais
non. On pourrait.
Mais aussi, on va faire la gueule, hein.
On pourrait.
Et puis alors, ce qui est génial, c'est que vous dites, OK, dans la tristesse de ce constat, en disant, il y a des animaux qui disparaissent, il y a des animaux en voie d'extinction, les glaciers qui sont en train de fondre, la montée des océans, et vous constatez quoi? Que les seuls animaux qui restent, c'est les pigeons qui nous font caca dessus.
Les pigeons, les méduses qui nous piquent. Et le moustique qui ramène le chikungunya. Voilà. Donc, tout cela... Alors là, eux, s'ils peuvent crever, on est contents. Mais en fait, on fait aussi... On se rend compte à quel point le monde est dans l'affect. C'est-à-dire qu'on se rend compte à quel point il y a des animaux qui nous intéressent, puis il y a des animaux qui ne nous intéressent pas. Mm-hmm. Je veux dire, c'est vraiment... J'ai la sensation quand même qu'on est toujours sur nous. C'est un peu égoïste. C'est-à-dire ce qui nous gêne ou ce qui ne nous gêne pas, quoi. Il y a un truc comme ça qui est un peu...
Et j'adore, alors je sais pas où vous êtes allé chercher cette idée-là, ou si c'est une vanne mais qui peut devenir une solution. C'est vrai que pour recharger des portables dans certains halls, on pédale. Ça t'a fait
on pédale
rire.
Mais oui, mais bien sûr, parce que quand on est gamin et qu'on laisse les lumières allumées, on te dit tu vas aller dans la cave et tu vas aller pédaler pour alimenter toute la maison. Et finalement, ça peut être pas mal.
Et finalement, ben c'est vrai, dans les gares et les aéroports, hein, vous pouvez pédaler pour recharger votre portable. Ouais. Donc on voit tout un tas de gens qui pédalent. Comme comme ça et qui rechargent leurs portables ou leurs ordinateurs. Donc on se dit, après tout, pourquoi est-ce qu'on n'obligerait pas chaque foyer à s'occuper d'un, à s'équiper d'un vélo d'appartement qui serait directement relié au compteur électrique? Tu veux voir ce qu'il y a dans ton assiette, tu pédales. Tu veux voir PSGOM, tu pédales.
Le tour de France partenaire.
Mais ça ferait de l'exercice, on comblerait le trou de la sécu, on serait en bonne santé. Pour les enfants, bah, ce serait une éducation géniale, parce que là, je peux te dire qu'ils lâcheraient leurs écrans. Hein. T'as un mauvais carnet, c'est toi qui pédales pour tout le monde ce soir.
Ils se rendaient compte de ce qu'ils consomment, surtout.
Bah, oui, évidemment.
De l'énergie à développer pour pouvoir avoir...
Voilà, je pense...
Mais ça, vous l'avez trouvé où?
Bah, comme ça.
Non, mais donc, c'est qu'une vanne.
Ah ben, bah, au départ, oui. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vois les gens...
J'avais vu l'histoire des pour recharger les portables, tu pédales, ça, j'ai trouvé ça extrêmement drôle de se dire, mais la démarche intellectuelle...
Mais je crois qu'on commence à y penser, hein, c'est pas... C'est-à-dire que nous, quand on l'a écrit, on rigolait un peu en disant, ça paraît totalement utopique, que tous les gens s'équipent d'un vélo d'appartement chez eux et que ça pédale pour avoir de l'électricité, mais en même temps, je crois que dans toutes les recherches, justement, pour apaiser la pollution et tout ça, je pense que ça en fait partie. La preuve, c'est que...
Il
y a 10 ans, on nous aurait dit, tu vas à la gare, tu vas pédaler pour recharger ton portable. On t'aurait dit, mais non, ça va pas la
c'est
tête.
C'est le principe de la dynamo.
Non, on aurait dit, mon portable, il tient 7 jours en batterie. Donc déjà,
les séances de biking,
C'est le principe de la dynamo, en fait. C'est de générer la lumière en pédalant.
60 mecs qui pédalent en même temps.
Si on arrive à la stocker. Le problème, c'est de stocker en batterie. Absolument. Je vous l'ai dit, c'est au Théâtre des Variétés, Michel Bernier, Vive Demain, c'est drôle, c'est intelligent, c'est efficace. Tout l'inverse de Daniel Morin.
Voilà du lancement.
Daniel.
Enfin, en tout cas, une bonne nouvelle pour la démocratie en Algérie. Ça y est, c'est quasiment officiel. Le président Bouteflika sera candidat pour un cinquième mandat en avril prochain.
Et dans quel état?
Les gars, n'exagérez pas, vous. Les quatre partis de la coalition se sont mis d'accord. Il est l'homme de la situation. À bientôt 82 ans, c'est le candidat idéal. Bon, pour l'instant, l'intéressé ne s'est toujours pas prononcé. D'ailleurs, depuis 2013, il se prononce que très rarement, pour cause d'AVC.
Il prononce plus.
Mais d'après l'entourage de M. Bouteflika, c'est l'histoire ancienne. Aujourd'hui, il est en pleine forme. Certaines mauvaises langues prétendent que le président Bouteflika ne serait pas hyper chaud pour un cinquième mandat. Mais c'est de la flûte, hein, comme dirait le président Macron, c'est de la pipe. Si les quatre grands partis de la coalition disent qu'il sera candidat, il sera candidat. J'imagine que la future conférence de presse médicalisée du président Bouteflika, en compagnie, bien sûr, d'un des leaders de la coalition, va clarifier tout ça. Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse en compagnie du président Bouteflika, un président en parfait état de santé qui attend avec une certaine impatience l'élection d'avril. Des questions? Pourquoi sommes-nous dans une chambre d'hôpital et pourquoi le président Bouteflika est-il inconscient? Alors, il n'est pas inconscient, il se concentre. Et pourquoi l'hôpital? Eh bien, c'est juste parce que son bureau est occupé. Voilà tout. Sinon, je peux vous assurer que le président va très bien. Il est même dans une forme incroyable. D'ailleurs, il va nous le dire lui-même. Réveillez-le! Réveillez-le! Président?
Oh non!
Nous avons un problème de micro, je vais donc répéter ce que dit le président. Le président dit qu'il est très content que vous soyez venus aussi nombreux. Le président dit que malheureusement, il ne pourra pas rester longtemps. Il a rendez-vous dans 10 minutes pour son entraînement de kickboxing. Juste après, il prend l'avion pour les États-Unis. Il a rendez-vous avec l'équipe des New England Patriots qui, cette nuit, ont gagné le Super Bowl. Il participera même avec l'équipe à une démonstration de plaquage. Une visite éclair aux États-Unis, car dès ce soir, le président Bouteflika sera de retour pour son dîner mensuel avec son ami Gérard Collomb depuis 70 ans. Les deux hommes se retrouvent une fois par mois et forment une paire pour un combat de 4 à 4. Voilà, je crois qu'il est temps de laisser le président se préparer pour son entraînement de kickboxing. Oui, une dernière question. Est-ce que le président Bouteflika souhaite réellement se présenter pour un cinquième mandat?
Non.
Il a dit oui, bien sûr, et il a hâte. Merci, plus de questions. Voilà, comme quoi, même ce qu'en pensent les mauvais coucheurs, la démocratie, même médicalement assistée, ça reste la démocratie.
Merci, Daniel Morin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Il y a une séquence très drôle, moi je pense à ça depuis tout à l'heure dans le spectacle, c'est l'appellation des grands-mères. comment est-ce que... Alors, mais ça, moi, ça me fait beaucoup rire parce que quand on a des enfants autour de nous, on voit comment ils appellent leur grand-mère ou comment les grands-mères leur demandent de les appeler.
Mmh. Ben, oui, mais on voit bien d'ailleurs que ça fait pas... c'est l'évolution aussi de la place de la femme dans la société, ouais. Et le fait qu'on soit évidemment moins vieille aujourd'hui, enfin, on paraît moins vieille aujourd'hui qu'il y a 30 ans, ouais. C'est que tout d'un coup, on est grand-mère à 50, 55 ans, 60 ans et qu'on est en pleine force, tout va bien, on travaille, enfin, on est dans la vie, quoi. Et que tout d'un coup, se faire appeler mamie ou mémère, ou mémé,
ça calme.
Ça calme énormément. Donc, toutes les futures grand-mères se disent, mais oh là là, mais comment vont m'appeler mes petits-enfants? Ouais. Et c'est la première question qu'on vous pose, d'ailleurs. Moi, quand j'ai annoncé que j'allais être grand-mère, on m'a dit, mais comment ils vont t'appeler? Ben, j'en sais rien, puis je m'en fous, en plus. Mais, et donc, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent, ah, mais moi, lors de l'inspecteur, je dis, moi, ils vont m'appeler Granny. Mais pourquoi Granny?
Qui est grand-mère en anglais.
Enfin, oui, qui est grand-mère en anglais, t'es née à Sarcelles, ça veut dire. Et donc, il y a un côté, tout d'un coup, on recherche, on s'invente des mots. Ouais. Alors, moi, je veux qu'il m'appelle Ninona ou Ninita ou je sais pas quoi. C'est mamie, comme si on voulait dire vraiment vieillir aujourd'hui, c'est un vrai problème, quoi.
Mais le problème, c'est qu'il faut expliquer aux petits-enfants qu'on est son grand-père ou sa grand-mère.
Oui.
Et en même temps, on ne veut pas entendre le mot grand-mère ou grand-père.
Donc, l'autre jour, d'ailleurs, j'ai croisé un monsieur qui m'a dit oh ben, moi aussi, maintenant, je suis grand-père. J'ai dit, ah bon, ça va, t'es content? Il fait, écoute, moi, je veux installer quelque chose d'amical avec mon petit-fils. J'ai dit, comment ça, amical avec ton petit-fils et ton petit-fils? Enfin, je dis, à un moment, il faut accepter les mots tels qu'ils sont.
C'est de nature,
on va pas tout le temps dire, non, moi, j'aime et je vais pas. Je suis, mais je suis pas. Donc, c'est vraiment un problème. Hein. Ouais, ouais. On voit bien que ça touche.
Finalement, comment ils vous appellent, les vôtres?
Bon, pour l'instant, ils parlent pas bien, donc c'est un peu.
Ils vous aiment les flics à peu près.
Quand ils me voient, ils sont un peu.
Mais vous aimeriez qu'ils vous appellent?
Et moi, j'aimerais bien que... Moi, ce que j'aime, en fait, c'est quand les enfants vous trouvent votre nom.
Ouais.
Parce que c'est encore plus mignon, quoi. Parce que quelquefois, dans la prononciation, ben, ils vont trouver un truc à eux et c'est mignon, c'est chouette,
Mimi,
quoi.
Ça risque,
voilà,
risque de tourner autour de Mimi, ouais.
Ouais, je pense que ça va tourner autour de ça.
Il y a des
ouais.
chances. Et puis, il y a aussi ce que vous racontez, à nouveau de très personnel, que lorsque le grand-père et la grand-mère ne sont plus ensemble... On redécouvre les joies de la garde partagée des petits-enfants aussi.
Bah, oui, c'est-à-dire qu'au départ, on se dit, bah, une fois que les enfants sont grands, indépendants, on pense qu'on est définitivement débarrassé de l'ex-conjoint, qu'on se reverra plus, puisqu'on on a quand même été obligé de se voir toutes ces années, donc, parce qu'on a eu des enfants ensemble. Et ben, quelques années plus tard, quand on devient grand-parent, bah, allez, rebelote. Alors, ah bon, faut qu'on se revoie. Alors, ben oui, on va faire la garde alternée des petits-enfants. Et donc, et ce sont des moments toujours joyeux et gracieux.
C'est drôle.
Mais je précise que dans ma vie personnelle, ça n'est pas ça.
Voilà. Tout va bien.
On s'amuse beaucoup, Bruno. On est heureux de se retrouver.
Michel Vernier, c'est Vive Demain et c'est au Théâtre des Variétés, un spectacle qui va partir en tournée en province.
Il va partir en tournée fin 2019 jusqu'à mi-2020, genre comme ça.
D'accord.
Et voilà, puisqu'entre temps, je vais tourner la saison 5 de La Stagiaire.
Alors pour l'instant, il y a la saison 4 qui commence la semaine prochaine.
Le 12 février.
Ouais. C'est ça, oui.
Ouais.
Ça sera toujours sur France 3.
Avec Antoine Abel.
Et toujours aussi heureuse de...
Oh ben moi, j'adore ce personnage. Plus ça va, plus elle est bord-cadre. Donc, elle me plaît de plus en plus, cette petite Constance Meyer.
Énorme succès. Qui est lié à la fois à votre popularité et au plaisir du public de vous retrouver, et au fond et à la forme de la série.
Oui, parce que, en fait, comme je dis toujours, c'est une série assez moderne, puisque c'est une femme qui a décidé de changer de vie. C'est vrai que c'est de plus en plus... Ça se fait de plus en plus aujourd'hui. Comme on disait tout à l'heure, on reste jeune et on se dit, bon, 55 ans, les enfants sont plus là. Peut-être qu'on a divorcé ou pas, peu importe, mais bon... Maintenant, on peut peut-être choisir un truc qui nous éclate vraiment. On peut se dire, tiens, j'avais une passion.
On peut avoir plusieurs
vies. On peut avoir plusieurs vies et se dire, tiens, voilà. Et donc, dans l'histoire de Constance, ben, c'est ce qu'elle a fait. Elle a repris des études de droit et donc elle est stagiaire, auditrice judiciaire, comme on dit dans la vraie vie. Et donc, elle travaille avec un juge d'instruction. Et elle, son combat, c'est effectivement d'essayer de garder une justice un peu humaine, un peu empathique et pas, voilà. d'être quelqu'un d'un peu particulier et elle peut tout se permettre. Voilà.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien entendu, déjà désolé pour le ski, le tennis, le cheval, le piano, le bilboquet, tous ces sports, ces arts que Michel Bernier a délaissés et qui ont perdu une grande championne, voire une virtuose. Allez, c'est pas fini, Michel, merde, venez, regardons vers demain, courons vers l'avenir, bon Dieu, fuck les activités optionnelles. Désolé pour Michel Bernier qui s'est rendu compte ce matin que Nagui et Leila étaient très étonné du succès de votre spectacle au niveau des réservations. Ah, Michel, c'est sûrement de la maladresse, à moins que ce soit tout simplement des salauds, à vous de voir. Ouais. Désolé pour Michel qui s'est rendu compte ce matin que Nagui et Leila étaient très étonnés du boulot que vous avez fourni et des moyens que vous avez mis dans votre spectacle. Oh, c'est sûrement de la maladresse. À moins que ce soit tout simplement des salauds, à vous de voir. Désolé pour Gérard, Canteloup et tous les grands imitateurs qui en ont pris un sacré coup dans la bande, dans la tête, en entendant ça.
Au samedi,
j'ai... Eh oui, la langue de belle-mère version Nagui. Oui, je sais, c'est navrant, mais
c'est pas moi, c'est un bruitage, c'est
et
pas
en,
moi.
Et en même temps, ce qu'il y a d'admirable, c'est qu'il l'a pas fait avec la bouche. Oh.
Merci Michel Bernier.
Merci à
bravo.
Vous.
Merci. On vous embrasse. Vive demain au Théâtre des Variétés et le 12 février, le retour de la stagiaire. Demain, c'est Olivier Gourmet qui sera notre invité pour une intime conviction. Affiche qu'il partage avec
vous. Vous pourrez l'embrasser pour moi.
Marina
vous pourrez.
Non, c'est promis.
Si,
c'est promis. Je te filerai son 06 après.
D'accord.